Bonjour à tous et à toutes. Ça va, vous m'entendez bien? Je suis désolé, j'ai un petit rhume, donc s'il faut... Mais bon, ça va bien se passer. Vous avez bien compris que tout le culte tournait autour de quelque chose de bien précis. Si je vous fais une interrogation écrite, je pense que vous aurez tous bon. On va parler d'amour. Eh oui, les chants, les passages, c'est un très beau sujet, effectivement. Et le titre du message, c'est effectivement « Parlez-moi d'amour ». Parce qu'on a tous besoin qu'on nous parle d'amour tous les jours. Toutes les heures, même toutes les minutes si c'était possible. Et l'apôtre Paul ne déroge pas la règle. Alors, on est sur un passage quand même, 1 Corinthiens 13, qu'on va lire. C'est un monument, quoi. Donc j'étais un peu intimidé quand on m'a dit « si tu veux bien prêcher sur 1 Corinthiens 13 », on se sent tout petit par rapport à ce passage. Et c'est vraiment, je dirais, un honneur de pouvoir étudier ce passage et transmettre le message que Paul voulait également transmettre à l'église de Corinthe. Donc on va lire le passage, tout simplement. « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Et il se réjouit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses... c'est l'amour. Amen. Je suis certain que vous connaissez Jean de La Fontaine. Sinon, vous demandez à vos enfants, d'accord, qui doivent, eux, le connaître sûrement, puisqu'on l'étudie très tôt à l'école. Cet auteur a marqué notre histoire littéraire par ses fables. Ça, je vous apprends certainement pas grand-chose. Certains de ses préceptes sont même entrés dans la sagesse populaire. Voici ce qu'il dit de l'amour. Tout l'univers obéit à l'amour. Aimez, aimez, tout le reste n'est rien. Cette citation du célèbre fabuliste semble faire écho au passage que nous venons de lire et nous parle de l'universalité de l'amour. Et en effet, même chez un auteur connu pour sa vie dissolue, sa lucidité face à la valeur éternelle de l'amour nous prouve que, même pour une personne athée, rien ne peut être parfait sans amour. Lorsque j'ai commencé l'étude de ce passage, j'ai été saisi par, évidemment, la beauté, la profondeur de l'écrit de Paul qu'il destine aux Corinthiens. Le chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens est incontestablement l'une des portions de l'écriture la plus connue et citée. Elle est souvent utilisée pour illustrer, d'ailleurs, les vœux des époux lors d'un mariage. Qui n'a pas entendu ça lors d'un mariage, d'ailleurs ? Mais les premiers versets du chapitre montrent bien que ce passage a une application beaucoup plus grande et profonde que l'union de deux êtres dans le mariage seulement. Afin de bien comprendre la richesse et la teneur du message de Paul qu'il veut transmettre aux Corinthiens, il est primordial, je pense, de connaître le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Le chapitre 13 est central de l'enseignement de Paul sur les dons spirituels, qui débute au chapitre 12 et se termine au chapitre 14. Le chapitre 12, comme vous l'avez déjà entendu, développe la dispensation, la réception et l'interaction entre les différents dons, alors que le 14, que nous étudierons bientôt, présente l'exercice correct des dons, surtout celui des langues. Le chapitre 13, lui, met en évidence la bonne attitude dans laquelle Dieu désire que tous les dons soient exercés. Et la fin du chapitre 12 est une transition parfaite entre ce que nous apprend Paul sur les dons spirituels et la bonne disposition de cœur du croyant dans l'exercice de ces dons distribués par Dieu pour l'édification des saints, c'est-à-dire nous, pas seulement les Corinthiens. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. En Corinthiens 12, 31. Tout au long de l'enseignement reçu chaque dimanche sur cette lettre, nous avons constaté que l'église de Corinthe avait plusieurs problèmes graves qui entachaient son histoire. Là encore, Paul, dans le chapitre 13, veut redresser un problème criant de cette église malgré tout bien-aimée de lui. En effet, les Corinthiens ont bien réceptionné les dons spirituels envoyés par Dieu. Il n'en manque pas. La saine doctrine est en grande partie présente dans cette église, mais l'amour, lui, il est absent. Si nous lisons Galates 5, 22, nous voyons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous nous rendons compte plus précisément du problème présent chez les Corinthiens. L'amour est donc un fruit de l'esprit, ou plutôt le fruit principal dont découlent tous les autres. Sans le fruit de l'esprit, on ne peut exercer les dons spirituels qu'humainement. Or, seule la marche selon l'esprit peut produire le fruit qui en découle. Les chrétiens de Corinthe, eux, ne marchent pas selon l'esprit. Effectivement, ils ne manquent d'aucun don, mais ils les mettent en œuvre avec égoïsme, dans le but de satisfaire leur propre intérêt. Nous l'avons aussi constaté lors du précédent enseignement sur la Sainte-Seine, si vous vous rappelez. Alors, vous allez me dire, mais cette lettre, elle concerne les Corinthiens, pas nous, bien entendu. Pourtant, elle regroupe beaucoup de caractéristiques qui se retrouvent dans notre époque actuelle. En effet, les temps changent, mais hélas, les hommes ne changent pas. Ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe se passe aussi dans beaucoup d'églises actuelles. Et ce constat doit nous porter à nous examiner nous-mêmes dans notre façon de vivre notre foi personnellement et dans notre communauté. N'oublions pas que Paul place ici la barre très haut, très très haut, en donnant cette image de l'amour divin qui doit être notre exemple à suivre. Reconnaissons que d'une manière humaine, il est impossible de vivre la perfection de l'amour de Dieu d'une manière pleine et entière. Mais comme dit Paul, il nous faut tendre vers la perfection. C'est là, d'ailleurs, notre raison de vivre pour Dieu. Pour exhorter les Corinthiens, Paul va écrire sous l'inspiration de l'Esprit un des plus beaux textes connus sur l'amour. Notre étude, donc, va se diviser en trois parties. C'est la norme. Trois parties, c'est comme ça qu'on fait. Bon, on ne revient pas là-dessus. Paul met l'amour au-dessus de tout, en premier. La seconde partie de notre étude sera « Paul fait le portrait de l'amour ». Et enfin, Paul met l'accent sur la permanence de l'amour. C'est tout simple, mais vous connaissez le texte. Ben, c'est pas si simple que ça. L'amour au-dessus de tout. La Bible est pleine de passages qui parlent de l'amour. Je vous en lis quelques-uns. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. 1 Pierre 4,8 nous dit, avant tout, ayez les uns envers les autres un ardent amour. Hébreux 10,24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, etc., etc. Alors, je pourrais remplir plusieurs pages de passages similaires, car la parole de Dieu accorde une grande importance, bien sûr, à l'amour, puisque Dieu est lui-même amour. Mais revenons à notre récit. La première image que Paul utilise concerne le langage. Il va se servir d'ailleurs, dans les 6 images mettant en avant l'amour, de la même figure de style, exagérant sciemment chaque situation. Quand je parlerai, quand j'aurai le don de prophétie, la science, la connaissance, quand j'aurai toute la foi, quand je distribuerai ou quand je livrerai mon corps, tout ça commence par un quand, ou un si vous voulez. D'accord ? On appelle cela en littérature une hyperbole. Merci Google, parce que je ne l'ai pas inventé. Hein. Paul ici met en avant le don de parler diverses langues, afin d'illustrer le manque d'amour qui règne chez les Corinthiens, car ce don est celui qu'ils prisent plus particulièrement et duquel ils s'enorgueillissent d'ailleurs. Si vous utilisez ce don dans le but de satisfaire votre propre intérêt ou votre orgueil spirituel, vous êtes un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, leur dit-il. Il est d'ailleurs intéressant de savoir qu'à cette époque, on honorait les divinités païennes dans les temples grecs en émettant des sons estatiques que je tairai ici, accompagnés de coups de gong et de cymbales. D'accord ? Donc les Corinthiens, je pense, ont certainement bien compris l'analogie qu'utilise Paul pour leur parler. Sans l'amour pour motivation, vous ne faites que du bruit. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. De la même manière, la prophétie, la connaissance et la foi exercées sans amour ne sont rien. Au chapitre 14, Paul mettra la prophétie à l'honneur, comme le premier don par rapport aux autres. Mais même le plus grand don donné par Dieu doit être exercé dans l'amour. Éphésiens 4,15 nous dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Je vous lis un petit passage du commentaire de John MacArthur sur 1 Corinthiens et qui nous dit « C'est notre motif qui est la force derrière ce que nous faisons et disons. Si notre motif est l'intérêt personnel, le renom, l'avancement ou quelque autre avantage, notre influence pour le Seigneur sera réduite d'autant. Peu importe à quel point nos paroles sont orthodoxes, persuasives et à propos, et à quel point notre service semble superficiellement utile. » Sans l'amour comme motif aux yeux de Dieu, nous ne faisons que beaucoup de bruit. Encore du bruit. Eh oui. Distribuer ses biens pour la nourriture des pauvres n'est pas non plus un acte spirituel s'il n'est pas fait avec la motivation de l'amour. On va loin là. La libéralité légaliste n'a aucune valeur devant Dieu. Matthieu 6,3 nous dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Paul termine ce passage en allant au-delà de toute mesure. Et déjà, c'était pas mal, là, j'ai trouvé. Mais alors, le dernier, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé. » On va loin, quand même. C'est ici le sacrifice suprême. On ne peut pas faire mieux. Et pourtant, Paul insiste sur le fait qu'on peut arriver à cette situation sans être motivé par l'amour de celui qui est mort pour nous. Quel dommage alors de devoir perdre sa vie sans que cela plaise à Dieu. En conclusion de ce premier paragraphe, on peut dire que Paul, que l'éloquence parfaite, la prophétie et la connaissance de tous les mystères terrestres et même célestes, la foi qui transporte les montagnes et même le martyr suprême exercé sans amour, non seulement ne valent rien aux yeux de Dieu, mais en plus produisent l'orgueil et la satisfaction de l'ego qui sont contraires à la vie de l'esprit. Le message de Paul que Paul envoie aux Corinthiens est on ne peut plus clair et met le point sur le problème central de ces chrétiens, savoir le manque d'amour endémique qui mine peu à peu les relations dans l'Église et hors de l'Église en détruisant le témoignage de cette communauté. Combien donc devons-nous être vigilants afin de garder le cap de l'amour dans notre Église en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit en toute humilité. Non content de mettre en évidence la mauvaise motivation et le manque d'amour des Corinthiens les uns envers les autres, Paul ne s'arrête pas en si bon chemin. Il est têtu, Paul, je vous le dis. Il va très loin. En plus de mettre l'amour à la première place, il va leur montrer à quoi doit ressembler cet amour. Avant de rentrer dans le détail de ce second paragraphe, il est important toutefois de noter que Paul, dans ce texte grec, n'utilise que des formes verbales pour caractériser l'amour. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, Paul veut que les Corinthiens comprennent que l'amour doit être actif et que ce que Dieu nous demande en nous aimant les uns les autres, c'est de le faire en action et pas seulement en parole. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, nous dit Jean dans 1 Jean 3:18. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise ben, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Paul, dans ce second paragraphe, va faire le portrait de l'amour. Mais en prenant pour modèle une personne qu'on connaît bien, Jésus-Christ, qui a parfaitement personnifié toutes les vertus de l'amour qui sont décrites ici. Jésus est patient. Il l'a démontré sur la terre en acceptant d'être incompris, humilié, trahi, maltraité, rejeté, frappé et même crucifié. Quand Paul parle de patience, il va contre-courant de toute la culture gréco-romaine qui voyait ce trait de caractère comme une faiblesse indigne à ce moment-là, et indigne d'une personne de qualité. En effet, du temps des apôtres, la vengeance était une vertu. Le choc pour les Corinthiens devait être d'autant plus fort car cette vertu chrétienne allait à l'encontre de la pensée de leur temps. N'oubliez pas que Corinthe, c'est une ville, c'était une ville assez importante en Grèce et que cette ville était très, très corrompue. Et les Corinthiens étaient au milieu, là. C'était un peu difficile pour eux, comme on dit, de surnager. D'accord ? Mais Paul remet les choses au point. Donc Jésus est patient. Les Corinthiens sont exhortés à prendre position en tant que chrétiens, quitte à être moqués ou déshonorés aux yeux de leurs compatriotes païens. Apocalypse 18:4 nous dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. » Pour en revenir à nos jours, de nos jours, les vertus chrétiennes qui s'opposent aux péchés sont sous toutes ces formes, n'ont pas non plus bonne presse auprès de nos compatriotes ou de nos contemporains. Dieu nous demande malgré tout de nous séparer du péché ambiant en vivant d'une manière virtueuse. Si nous poursuivons, Jésus est plein de bonté. Amen. La bonté n'est pas seulement un bon sentiment, mais elle a besoin d'être elle aussi active comme l'amour pour être véridique. Elle inclut aussi nos ennemis. Jésus a démontré la bonté suprême sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Sommes-nous capables, comme Jésus, d'être bons envers ceux qui nous font du mal ? Jésus n'est point envieux. Il n'a jamais voulu posséder autre chose que ce que son Père lui a donné. L'envie peut se traduire par le fait de vouloir posséder la même chose que son voisin, voire mieux. Si c'était possible, mon voisin a acheté une belle maison, eh bien moi j'en veux une de plus grande encore. Mais pire encore, l'envie peut aussi se traduire par le fait de vouloir que mon voisin n'ait pas ce qu'il a. Cette envie-là souhaite le mal à autrui. Jésus ne s'est jamais vanté. La vantardise, en effet, est la plus haute expression de l'orgueil. C.S. Lewis l'a appelé le pire des maux. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Philippiens 2, 6 à 8. Jésus s'est humilié, il n'a pas recherché la première place. Jésus ne s'est jamais enflé d'orgueil. Au contraire, il a accepté l'humiliation d'être cloué sur une croix. Alors que Dieu nous rende capable de dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3,30. Jésus n'a jamais fait non plus quelque chose de malhonnête. Le terme peut être mal compris à ce niveau-là. Le terme grec employé ici induit plutôt des agissements malséants, peu convenables, voire grossiers certaines fois. Paul a déjà repris d'ailleurs les Corinthiens pour leur conduite inconvenante pendant la table du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 1 Corinthiens 11, 21. Si notre vie manque de politesse et de considération pour les autres, elle manque aussi d'amour. Jésus n'a jamais recherché son propre intérêt. Il a donné d'ailleurs sa vie afin que des coupables soient pardonnés. Lansky a dit « Faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté le jardin d'Éden ». Quelle belle phrase. On n'en est pas là encore. Hélas. Dans la lettre aux Philippiens, on peut lire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2,4. On a beau le lire comme ça, quand vous essayez de le mettre en pratique, c'est pas si simple. D'accord ? Nous ne sommes que des hommes. L'égoïsme est certainement le centre névralgique de tous les autres péchés. Même dans l'exercice des dons spirituels, les Corinthiens recherchaient leur propre édification. Jésus ne s'irrite point. Mais il peut quelquefois s'indigner justement du mal qui l'entoure. Jamais par contre il ne s'irrite de ce qu'il a subir de la part des hommes. Combien il nous est difficile de ne pas nous emporter quand on est victime d'une quelconque injustice ou brimade. Combien nous sommes prompts à sortir de nos gonds en fait de réclamer haut et fort ce qui nous est dû. On a encore du chemin à faire pour ressembler à Jésus. Jésus ne soupçonne pas le mal. Là aussi, le terme peut être mal compris. Ce terme grec peut être plutôt traduit par « imputer ». Il est employé en comptabilité, je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent ici, et veut dire « tenir compte d'eux ». J'ai connu quelqu'un qui tenait un journal de toutes les choses qui lui paraissaient importantes de ne pas oublier, jusque-là. Et cette liste pouvait être utilisé à tout moment pour rappeler aux personnes concernées les actes commis à son encontre, même plusieurs années auparavant. C'est bien évidemment la sorte de liste que l'amour ne tient pas. Nous lisons dans Matthieu 18, 21 à 22, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ah. Ça fait beaucoup. Mais même là, c'était juste une façon de dire, tu lui pardonneras chaque fois, éternellement. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et Jaïe nous met en garde, d'ailleurs, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Notre époque a vu émerger beaucoup de contre-vérités, rendant acceptable ce qui ne l'est pas vraiment. La vérité dont parle ici Paul est la vérité révélée de Dieu, et non pas seulement l'inverse du mensonge. L'amour qui vient de Dieu se réjouit donc de la vérité divine et non pas de la fausse doctrine. Jésus excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Avec ça, on a fini. On peut repartir à la maison. L'amour ne protège jamais le péché pourtant. Mais il cherche à protéger le pécheur, comme Jésus le fait pour nous. Il ne nous condamne pas, mais veut nous ramener dans le droit chemin. Par contre, Ce passage ne peut jamais être pris hors de son contexte pour affirmer que l'on doit tout supporter, quels que soient les sévices subis. Ce passage ne cautionne en rien la maltraitance d'un enfant ou d'une femme mariée, par exemple, sous prétexte qu'ils doivent tout supporter. Ce sont des agissements réprimés par la loi et donc inacceptables. Pour terminer, le message que Paul veut faire passer aux Corinthiens, eh bien, il va mettre l'accent sur la permanence de l'amour. D'accord ? L'amour ne périt jamais car il est éternel. Il ne peut pas d'ailleurs périr car il participe à la nature de Dieu. Si l'amour disparaît, ben Dieu ne serait plus Dieu, tout simplement. Paul met en évidence la permanence de l'amour en le comparant avec la nature temporaire des trois dons spirituels, la prophétie, les langues et la connaissance. Pour comprendre correctement ce passage, il faut comprendre que tout tourne autour des verbes utilisés par Paul ici. Alors le but, ce n'est pas de faire une étude sur les dons spirituels et ces trois dons en particulier, mais de voir le message qui se cache derrière. La prophétie et la connaissance seront abolies, littéralement, rendues inopérants ou inactifs. Quelqu'un, donc, ou quelque chose doit intervenir pour les rendre inactifs. Les langues cesseront, littéralement, arriveront à leur fin. Ce don des langues a donc, apparemment, un point de cessation programmé d'avance. Donc, si l'on veut savoir quand ces dons vont s'arrêter, il faut traiter le don de prophétie et de connaissance différemment du don des langues qui a une obsolescence programmée. Le texte nous dit clairement que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et seule la prophétie et la connaissance sont citées dans cette phrase, plus les langues. Plusieurs interprétations ont été avancées quant à ce qui est parfait. Je vous les livre, et vous en faites ce que vous voulez ensuite, le texte complet du Nouveau Testament, l'enlèvement de l'Église, la maturité de l'Église, la seconde venue du Christ, l'état éternel et céleste des croyants. Voilà un peu ce qu'on peut voir dans les commentaires concernant justement ce terme « ce qui est parfait sera venu », c'est-à-dire quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. D'accord ? La plupart des commentateurs s'accordent sur la dernière option, mais pas tous. Paul est en train de faire comprendre aux Corinthiens qu'ils accordent beaucoup d'importance au don spirituel au détriment d'une vie spirituelle remplie d'amour et de communion avec Dieu. Il ne leur dit pas que les dons sont mauvais, mais qu'ils doivent être exercés avec l'amour de Christ jusqu'à leur disparition. Les dons sont temporaires alors que l'amour surpasse tout, même la foi et l'espérance. Alors en conclusion, une fois encore, Paul est en train de redresser ce qui est tordu chez ses chers Corinthiens. Il relève ici le problème fondamental qui est le manque d'amour et qui entache toute la vie de cette Église. Par ce texte magnifique d'ailleurs, Paul, sans accuser directement, veut leur faire comprendre quelle doit être leur priorité dans leur vie spirituelle. Ils doivent mettre l'amour en premier dans leurs relations. Ils doivent s'efforcer de ressembler au portrait de Jésus dressé par l'apôtre. Car les dons spirituels, tant mis en avant, sont temporaires alors que l'amour ne périt jamais. Paul parle au travers des âges à toutes les églises de Jésus-Christ de tous les temps, les exhortant à abonder de plus en plus dans l'amour qui est le lien de la perfection et d'obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puissions-nous, frères et sœurs, faire grandir de plus en plus cet amour parfait qui vient du Père des Lumières dans nos foyers et dans notre Église afin que Dieu soit glorifié dans ses enfants. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes bien petits par rapport à ta parole, Seigneur, et nous voulons nous soumettre. Nous voulons, Seigneur, être humbles à tes pieds, Seigneur, pour que tu nous enseignes. Et Seigneur, nous te remercions pour tous les dons dont tu nous as pourvus, Seigneur, et nous te remercions également pour cet amour qui vient de toi, qui nous remplit tous les jours, Seigneur. Ô Seigneur, nous voulons que tu nous rendes capables de redistribuer ne serait-ce qu'une petite partie de cet amour qui nous remplit envers les autres, Seigneur. Que tu nous rendes capables d'être des lumières sur notre chemin, d'éclairer autour de nous, Seigneur, par cet amour, non pas de notre propre chef, mais parce que c'est toi qui as tout accompli pour que nous puissions être les réceptacles de ton amour, Seigneur. Merci parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Et tu le rends possible par ton esprit, Seigneur. Nous te prions ces choses au nom de notre Fils, ton Fils Jésus-Christ. Amen.